Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants, Pivot et Urbania. Au programme, le sort de la langue Innu se joue maintenant. L'arme des hommes pour une masculinité plus positive. Ici, c'était vous le problème. Bonne écoute.
Le sort de la langue Innu se joue maintenant. Un texte de Léa Beaulieu-Kratchanov, paru le 18 novembre 2022 dans le magazine Pivot. La langue Innu, l'Innu Aymun, est en déclin à Ouachat-Mac, Mani-Outenam, tout particulièrement chez les jeunes. Lorsque Charlène Jérôme était étudiante à l'école Chish-Teshinu, à Mani-Outenam, près de cette île, la majorité de ses camarades de classe parlaient couramment l'Innu Aymun. Dans le même établissement où elle enseigne désormais l'Innu à près de 180 élèves, la vitalité de sa langue est aujourd'hui moins encourageante. Évoquant l'impact persistant des pensionnats et du génocide culturel qui y a pris place. Plus de 40 ans après la fermeture de la dernière institution de ce genre au Québec, Ouachat-Mac Mani-Outenam envisage un meilleur avenir pour son éducation, par et pour la communauté. Le niveau de perte de la langue est vraiment à la hausse chez les jeunes, souligne Charlène Jérôme. Bien que ces étudiants et étudiantes parviennent généralement à comprendre des consignes énoncées en Innu, l'enseignante s'inquiète du fait que la plupart communiquent surtout en français ou en anglais. On voit une maîtrise de la langue qui est de moins en moins présente, surtout auprès des jeunes, confirme Vicky Lelièvre, directrice du secteur de l'éducation d'Innu Taquaican, Ouachat-Mac, Mani-Outenam, ITUM. Elle précise que ce déclin concerne surtout les moins de 25 ans. Même lorsque les parents et la famille maîtrisent l'Innu, la langue demeure peu parlée à la maison. Je vois encore certains parents qui hésitent à parler en Innu, explique Charlène Jérôme, en évoquant l'influence des pensionnats, où l'usage de la langue était sévèrement interdit. On dirait que la peur est restée. Les jeunes n'ont pas non plus l'occasion de pratiquer avec des amis, ni d'y être exposés, au même titre que l'anglais ou le français, à travers les réseaux sociaux, la télévision, la radio. La préservation de sa langue et de sa culture avait appelé la communauté de Ouachat-Mac Mani-Outenam à se réunir en octobre dernier lors d'un sommet sur l'éducation, au lendemain de la signature d'une entente avec le gouvernement du Québec, lui octroyant davantage d'autonomie sur la question. L'objectif sous-jacent dans tout cela est aussi de restaurer une identité et une fierté auprès des jeunes, fortement liée à la redécouverte de la richesse culturelle, des traditions, de l'histoire et à l'usage de la langue. Une question d'identité. La perte d'identité commence vraiment dans la préadolescence. Selon Charlène Jérôme, le phénomène est intimement lié au racisme que les jeunes subissent à cette île. Les jeunes entendent souvent dire des mots vulgaires. Ils se font parfois traiter de « sauvages ». Le mot est repris par les adolescents, adolescentes de la communauté lorsque l'enseignante leur demande de décrire ce qu'être « Innu » signifie à leurs yeux. L'identité, perçue négativement, est souvent synonyme de honte. Ce sentiment n'est pourtant pas encore présent chez les plus petits, plus petites, qui associent plutôt leur identité à une connexion avec la nature. On voit qu'ils ne sont pas encore touchés par le racisme, explique l'enseignante, qui y voit un signe d'espoir. J'essaie de trouver un moyen à travers mes cours pour que ça continue à l'adolescence. Ce sentiment de malaise par rapport à sa propre culture n'est pas un phénomène nouveau pour Charlène Jérôme, qui confie avoir été en proie aux mêmes interprétations lorsqu'elle était adolescente. Ce qui a fait toute la différence dans son cas, c'est de s'impliquer dans des ateliers culturels et de reconnecter avec la communauté et ses traditions, et surtout de se réapproprier le véhicule qui lie tout ça ensemble, la langue. Selon l'enseignante, elle est là, la clé de l'épanouissement des jeunes. Repenser l'éducation dans son ensemble. Durant sa première année d'enseignement, Madame Jérôme s'est rendue à l'évidence, les méthodes d'enseignement traditionnelles ne permettaient pas à ses élèves de développer pleinement leur connaissance de la langue. Pour parvenir à rejoindre les jeunes, elle tente donc d'allier la pédagogie autochtone et la technologie. Cela passe souvent par le jeu, l'imitation de situations réelles, la discussion, les tablettes électroniques et l'exploration en nature aussi. J'essaie le plus souvent possible de les amener dehors. J'ai remarqué qu'en allant dehors, les jeunes utilisaient automatiquement les mots « inou » sans en être conscients. La jeune enseignante rêve de pouvoir faire des classes nature sa méthode d'enseignement principale. Reste un manque important de ressources et de temps, car chaque étudiant n'a qu'une heure chaque semaine pour apprendre l'Innu Aïmoun. C'est vraiment quelque chose de très accessoire. La langue est très secondaire dans l'enseignement actuel, explique Vicky Lelièvre. Si une entente générale a été signée en août dernier entre la communauté et le gouvernement du Québec afin de permettre davantage d'autodétermination en matière d'éducation, les détails de celle-ci restent à préciser. Nos discussions se poursuivent pour arriver à des signatures plus ciblées, explique Vicky Lelièvre. C'est là que tout va se jouer, selon elle. L'ITUM souhaite notamment faire reconnaître les programmes qu'elle est en train de mettre sur pied en langue, en culture et en histoire. Un des enjeux importants est la reconnaissance de la langue inoue comme première langue, souligne Vicky Lelièvre. Cela permettrait notamment son emploi pour enseigner d'autres matières. La situation est critique, souligne-t-elle en rappelant la perte linguistique chez des jeunes. Il y a des actions qui peuvent renverser la vapeur, mais il faut s'y prendre rapidement. Le sort de la langue inoue se joue maintenant. Un texte de Léa Beaulieu-Kratchanov, paru le 18 novembre 2022 dans le magazine Pivot.
Les larmes des hommes pour une masculinité plus positive. Un texte de Catherine Montembeau paru le 31 mars 2022 dans le magazine Urbania. Rencontre avec Francis William Réaume, créateur du compte Instagram La Boîte aux larmes. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Quand je pose la question aux hommes autour de moi, les réponses m'étonnent souvent. Il y a 5 ans, quand ma grand-mère est décédée, en 2018, quand je me suis séparé de ma blonde, quand j'ai dû faire euthanasier mon chien il y a 2 ans. Sans vouloir généraliser, force est de constater que chez les hommes de mon entourage, pleurer semble être une réaction réservée aux grands événements. Un phénomène que j'ai toujours trouvé curieux, étant donné la propension de mes propres glandes lacrymales à s'activer à la moindre émotion. Pourquoi les hommes semblent-ils moins sujets au flot de larmes? comment notre vision de la masculinité influence-t-elle les émotions des hommes? J'en ai discuté avec le comédien et illustrateur Francis William Réaume, qui a récemment lancé le compte Instagram La Boîte aux Larmes. instagram.com/la.boite.o/larmes au pluriel, où des hommes se racontent entre eux la dernière fois où ils ont pleuré. Témoignage sur la boîte aux larmes. J'ai pleuré en faisant l'amour. Quelques larmes, discrètes mais réelles. C'était il y a quelques semaines. Je me rendais compte que j'étais en train de tomber en amour et que cela faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je sais qu'elle lira sans doute ce message, et je trouve ça très, très beau. Peut-être même que je vais repleurer. Un homme. Sur ton compte Instagram personnel, tu sembles t'intéresser à la masculinité depuis un moment, mais pourquoi avoir créé la boîte aux larmes? C'est le fruit d'un travail sur moi, mais aussi d'une réalisation que je pouvais m'intéresser au féminisme et lire des œuvres féministes en tant qu'homme. Il y a 3 ans, je me suis séparé de la mère de ma fille et j'ai commencé à faire de la thérapie. À ce moment-là, il y a un genre de channel en moi qui s'est réouvert, que j'avais fermé à partir de l'adolescence. Depuis ce temps-là, je suis fucking vulnérable tout le temps. Je pleure énormément. Des fois, ça me donne l'impression d'être en dehors de la norme d'un dude normal. Donc, je me suis mis à lire beaucoup là-dessus, même si je n'avais pas encore les termes « masculinité toxique » ou « patriarcat » en tête. Récemment, j'ai aussi vu le documentaire « The Mask You Live In » à propos de la masculinité toxique et de comment on peut éduquer les jeunes garçons à entrer dans la masculinité positive. Il y a une scène où on voit un thérapeute avec une gang de jeunes gars. Il leur passe un masque en papier et leur demande d'écrire dessus quel masque ils portent dans leur vie, quel masque leur a été légué par le patriarcat, par l'image de ce que doit être un vrai homme. À l'intérieur du masque, il leur demande d'écrire ce que les gens ne savent pas d'eux, ce qu'ils gardent pour eux. Ils se lisent ensuite ces mots-là, et il y a quelque chose d'extrêmement touchant qui se passe. Je me suis dit que ça serait cool qu'on ait accès à cette vulnérabilité-là plus souvent. Bref, c'est une série d'événements qui ont fait en sorte que je me suis dit « Hey, sur Instagram, je veux entendre des dudes me parler des fois où ils ont pleuré. » Parce qu'entre hommes, on n'a pas du tout ce langage-là. On est beaucoup plus porté à aller pleurer devant une femme, devant nos blondes, devant nos amis. Mais entre hommes, on ne se laisse pas la place, parce que ça n'a pas rapport de pleurer dans les bras d'un autre homme. Ce n'est pas comme ça qu'on nous a éduqués. On lit présentement « Les larmes des hommes » pour une masculinité plus positive, un texte de Catherine Montembeau paru le 31 mars 2022 dans le magazine Urbania. Justement, quand tu as lancé le compte, tu as expliqué en story que c'était notamment pour donner un break aux femmes. Qu'est-ce que tu voulais dire? J'ai lu le livre « La volonté de changer » de Bell Hooks et elle parle beaucoup que pour atteindre l'égalité homme-femme, pour que la femme se libère du patriarcat, il faut qu'on tende la main aux hommes et qu'on soit capable d'entendre leurs souffrances. Moi, j'ai été dans une relation où, suite à la thérapie, je nommais beaucoup mes émotions, je parlais beaucoup de ce que je ressentais à ma blonde, et à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était toujours des femmes qui m'écoutaient, parce que c'est ce qu'on leur a enseigné à faire. J'ai aussi une amie de fille avec qui je parle souvent de sujets plus intimes, et je me disais, j'aimerais ça parler de cette façon-là à mes amis gars. Parce que quand on arrive à parler d'émotions entre gars, c'est généralement en surface, en gardant un peu notre fierté, ou en allant dans l'humour, en contrôlant l'émotion. Donc oui, Cette idée-là de donner un break aux femmes et d'apprendre entre hommes à parler de nos souffrances, c'est un concept qui me plaît beaucoup. Témoignage sur la boîte aux larmes. J'étais en train de constater la perte d'un être cher. J'avais beaucoup de peine. Pendant ce temps, un plombier, loin de ses sentiments, changeait mon réservoir à eau chaude. Alors, j'ai dû pleurer par en dedans, comme on nous l'a appris vers l'âge de 10 ans. Ces larmes qui restent en dedans, ce sont elles qui font le plus de mal au corps. J'aurais aimé pouvoir pleurer devant lui. Après tout, c'est son travail de réparer les fuites. Un homme. À quoi ressemblent les témoignages que tu as reçus jusqu'à maintenant? Y a-t-il des similitudes entre eux? Quelque chose de particulier qui en ressort? Ce que je remarque surtout, c'est à quel point c'est varié, à quel point les hommes pleurent pour toutes sortes de raisons. Je reçois autant des témoignages super light comme « J'ai pleuré avec ma mère quand je lui ai annoncé que j'étais accepté à l'université en droit » que des choses plus graves. Je remarque aussi qu'il y a beaucoup de témoignages d'hommes qui pleurent à la suite d'une rupture. Mon rapport aux autres hommes a toujours été foqué, et pour moi, de recevoir tout ça, c'est vraiment fort. Je vais travailler, je vois des hommes, je repense aux témoignages que je reçois et je me dis « Tous ces hommes-là ont ça en eux quelque part. » Ça me réconcilie beaucoup avec les autres hommes. Toi, comment t'as-t-on appris la masculinité en grandissant? Je pense que j'ai toujours eu le personnage du bon gars ou du gars un peu comique. Je n'ai jamais fait beaucoup de sport ou été le gars super comme Ra. Ça fait que je me suis toujours dit, voyons, on dirait que je suis brisé comme homme. Heureusement, mon père n'était vraiment pas là-dedans, dans les gros rapports de domination et tout ça. Mais quand même, avec la thérapie et l'introspection que je fais, je commence à me rendre compte que malgré cet univers-là dans lequel j'ai grandi et cette impression d'être un bon gars, il y a quand même plein de legs de la masculinité toxique en moi. Et là, je suis rendu à identifier ce que c'est exactement. Par exemple, je sais que j'ai déjà été insistant avec des filles, et avec le recul, je réalise qu'on nous apprend ça très jeune, que c'est même sexy d'aller plus loin, trop loin. Témoignage sur la boîte aux larmes. C'était la première fois que mon fils de 6 mois prenait l'avion. J'étais anxieux. Je ne voulais pas qu'il pleure et dérange tout le vol, ni subir le jugement des autres passagers. Lorsque l'avion a commencé son avancée, je lui ai mis ses coquilles sur les oreilles. Je l'ai serré fort contre moi en lui flattant doucement le visage. Il s'est endormi au moment où l'avion a quitté le sol. J'ai éclaté en sanglots. J'étais soulagé. Je n'ai pas caché mes larmes. Je les ai laissées couler. Les gens m'ont regardé ou jugé. J'étais fier. Un homme. C'est quoi pour toi une masculinité positive? Qu'est-ce que tu aimerais qui change par rapport à notre vision de ce qu'est la masculinité? Juste qu'on soit capable de se mettre d'égal à égal entre nous et avec les femmes. Ou qu'au moins, en tant qu'homme, qu'on soit très, très conscient du privilège qu'on a, qu'on le nomme, et après ça, qu'on essaie de réparer les choses. Je me rappelle que pendant la vague de dénonciation de l'été 2020, plusieurs gars autour de moi disaient comme « Oh shit, lui a pas encore été nommé » ou « Oh man, j'ai eu peur d'être nommé ». Mais l'idée, ce n'est pas d'être nommé ou non, c'est de faire ce travail-là sur soi. Tu sais, c'est pas parce que tu cours dans le trafic une fois et que tu ne te fais pas frapper que c'est une bonne pratique. C'est important d'avoir un éveil, de faire de l'introspection. J'aimerais ça que les gars, on soit plus nice et que je n'entende plus mes amis dire « Il a fallu que je dise 15 fois non à un dude avant qu'il comprenne. » Même à la télé, c'est tellement encore le même homme qu'on voit, dominant et fort physiquement. Alors qu'on se promène dans la rue et la masculinité est tellement plurielle. Je trouve que les nuances de la masculinité ne sont pas encore tant représentées ni valorisées. La liste est longue, mais juste d'accepter les mots comme masculinité toxique et de vouloir aller les comprendre, de lire sur le mot féminisme et se rendre compte que c'est pas juste des femmes frustrées, mais que ça parle d'égalité des genres, qu'il existe plein de types de féminisme, déjà là, c'est un bon premier pas. J'ai toujours eu des amis et des blondes féministes, mais j'ai toujours eu cette réaction-là de « j'écoute, je comprends, mais ça ne m'interpelle pas vraiment, il faut juste que je sois un allié ». Mais en me donnant la permission de m'intéresser au féminisme pour de vrai, j'ai compris que les inégalités et les normes de genre affectent énormément les hommes aussi, et donc que le féminisme nous concerne. Il faut s'informer là-dessus. As-tu des recommandations de lecture ou de contenu pour d'autres hommes, ou quiconque, qui aimerait commencer à s'éduquer sur ces sujets? Mis à part le livre « La volonté de changer » de Bell Hooks, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une super belle entrée en matière, il y a « Pour l'amour des hommes » de Lise Plank, qui est plus factuelle, et « Réinventer l'amour » de Mona Chollet, qui est très challengeant à lire, mais très pertinent. Il y a aussi un podcast que j'ai découvert récemment qui s'appelle « Man Enough ». C'est plein d'hommes qui parlent de leur rapport à leur masculinité. C'est vraiment le fun à écouter. Toi, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré? J'ai pleuré hier. Ces temps-ci, il y a comme plein de gens autour de moi qui m'ont parlé de leur enfance. Et hier, j'ai une amie qui m'a parlé de la sienne et de l'abus psychologique qu'elle a vécu. Et ça m'a fait pleurer. C'était « Les larmes des hommes pour une masculinité plus positive », un texte de Catherine Montembeau paru le 31 mars 2022 dans le magazine Urbania.
Et si c'était vous le problème? Un texte de Gabriel Thibault-Delorme, paru le 10 février 2022 dans le magazine Urbania. On est tous et toutes le problème de quelqu'un d'autre. Votre boss vous donne encore du feedback négatif, votre collègue s'impatiente avec vous, le syndicat ne fait rien, les clients et clientes ne retournent pas vos appels. Et si le réel problème, c'était vous? On connaît tous et toutes quelqu'un qui s'examine trop, qui doute de lui-même, qui se remet constamment en question. Mais le contraire est aussi vrai. Certaines personnes sont dues, depuis un bail, pour un sérieux auto-examen. En faites-vous partie? C'est parfois très dur de se remettre en question. Au cours de notre vie, nous construisons une image de nous-mêmes au fil de nos expériences et de nos relations. Plus on vieillit, plus cette image se fige et plus difficile risque d'être l'introspection. Voici quelques indices qui peuvent vous indiquer que le problème, ça pourrait bien être vous. Je suis faite comme ça. Utilisez-vous cette phrase pour vous défendre dans un conflit? Avez-vous déjà entendu quelqu'un l'utiliser pour justifier ses comportements? Vous vous définissez par vos actions, mais tous les jours, vous en posez de nouvelles. C'est donc autant de nouvelles occasions de vous redéfinir. La phrase « si haut » est un simple échappatoire pour éviter de vous remettre en question. C'est encore pire si votre entourage utilise cette phrase pour vous défendre. On a tous et toutes déjà entendu quelqu'un l'utiliser pour déresponsabiliser un oncle raciste ou un patron tyrannique. Selon vous, qu'ont en commun ces personnes? Vous reproduisez les mêmes scénarios. Toutes vos relations de couple se terminent de la même façon? Vos emplois aussi? Et le problème dans tous ces cas est toujours similaire? Si vous reproduisez constamment le même scénario, ça se pourrait que ce ne soit pas les autres le problème. Petit bémol, Si vos relations ou vos emplois se terminent mal, mais pas pour les mêmes raisons, il est plus rare que la cause repose uniquement sur vous. Et s'ils se terminent pour des raisons diamétralement opposées, vous pouvez en conclure que vous savez vous remettre en question, mais que vous vous surcorrigez peut-être un peu. Par exemple, en changeant un emploi stressant qui vous a conduit au burn-out par un emploi trop peu stimulant où vous vous ennuyez. Vous êtes une victime. Dans tout conflit, les deux parties sont responsables d'une partie du tort. On vous l'accorde, la responsabilité n'est pas toujours répartie également. Mais vous devriez quand même pouvoir examiner une mésentente et déterminer ce que vous auriez pu faire différemment. Auriez-vous pu vous affirmer davantage? Avez-vous haussé le ton? Avez-vous fait preuve d'impatience? Avez-vous été méchant, méchante? Si vous sortez d'un conflit avec la certitude que l'autre personne est entièrement à blâmer, j'ai de petites nouvelles pour vous. Vous êtes plus responsable que vous le croyez. Prenez le temps de vous remémorer vos conflits et posez-vous la question « Qu'auriez-vous pu faire de mieux ?» Vous êtes en situation de pouvoir. Ce n'est pas parce que vous êtes en situation de pouvoir que vous ne savez pas vous remettre en question, mais ça rend parfois l'introspection plus difficile. Pourquoi ? Eh bien, parce que les gens qui vous entourent, qui sont vos subalternes, ne vous disent probablement pas toute la vérité sur vos agissements. Si vous remarquez que personne dans votre équipe n'ose donner son avis ou contredire vos positions, ce n'est probablement pas parce que vos décisions sont parfaites, mais plutôt parce que votre entourage craint de s'exprimer librement. Si les conséquences de dire la vérité sont déplaisantes ou trop importantes, il n'est pas surprenant que les gens mentent. Car oui, des fois, le problème, c'est vous. Et si c'était vous le problème? Un texte de Gabriel Thibault Delorme, paru le 10 février 2022, dans le magazine Urbania.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vusezvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche, André Lebeau et Luc Mercure à la lecture, André Lebeau à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté à la présentation et Nicolas Wartmann au montage.